Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les matchs là l'année dernière, où il y a deux ans, on y allait toujours un peu en demi-molle.
Ce manque d'insuffisance qu'on a eu en supériorité numérique.
Ça va être vite fait, les matchs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After, l'émission placebo du confinement. Je le disais, une émission qui vous soulage de votre manque de foot, on le sait, vous êtes accro au sport le plus populaire du monde. Alors nous sommes un petit peu le subutex de ce football. On n'allait pas vous laisser comme ça, la bave aux lèvres, l'œil vitreux, en train de regarder les rediffs de Nancy à Lorient. Vous nous appelez au 32-16 pour participer à cette émission. On va vous parler des infos du jour, de la planète foot, du rôle de l'équipier moderne au sens noble du terme. Les drôles de dames viendront nous parler respectivement de leurs petites pépites françaises dans chacun des championnats, des joueurs que vous ne connaissez peut-être pas, des Français qui pointent le bout de leur nez. Et puis on jouera ensemble à la fin de cette émission avec le quiz, encore une fois le 32-16 pour nous rejoindre. Et pour nous accompagner ce soir, un équipier modèle, il faut l'être dans une équipe avec Guistin, Anelka et Luis Fernandez sur le banc. Pierre Ducrot, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Un autre équipier modèle qui a su se mettre au service du collectif France 98 en étant dans la position la plus difficile du football, le gardien numéro 3, mais en étant aussi mon coéquipier modèle dans les quiz de l'After dans les deux dernières déroutes, Lionel Charbonnier, bonsoir.
Salut Tim, salut Pierrot, salut à tous. Et alors, t'as vu, je sais me faire oublier, hein. C'est une des qualités d'un coéquipier aussi.
Effectivement, savoir. Effectivement. Et puis un homme qui, sans équipier modèle, sans porteur d'eau, n'aurait peut-être pas été le joueur qu'il a été, car lui était de l'autre côté de la barrière. C'est Jérôme Rotten, bonsoir.
Salut Timothée, qu'est-ce que
salut
t'es
con.
Ça va, je me débrouille.
Salut à tous, salut Lionel, salut Pierrot.
Alors messieurs, comme de coutume en cette période, on va commencer avec l'actu foot du jour. Je voudrais avoir vos réactions éventuellement sur les différentes actualités. On va commencer avec celle-ci. L'UEFA assure qu'il n'y aura pas de date butoir pour finir la Ligue des Champions. Au lendemain des propos où Alexander Seferin évoquait une date limite du 3 août ou rien pour boucler la Ligue des Champions, eh bien, il y a eu rétro-pédalage. Il a expliqué que cela pourrait se dérouler éventuellement plus tard. Messieurs, c'est pas tellement la date, parce qu'on a déjà beaucoup parlé dans ces dernières émissions de début, de fin, de championnat, de quand est-ce que ça allait reprendre. La question que je vous pose, c'est est-ce que les instances du football devraient un peu se taire sur le calendrier, attendre que les différents gouvernements tranchent et ensuite enfin s'exprimer, parce que là on entend tout et n'importe quoi. Jérôme.
Écoute, on le dit depuis le début du confinement, on en a fait beaucoup d'after tous les jours quasiment, et on était les premiers à dire qu'après des discussions qu'il pouvait y avoir, ça a commencé mi-mars avec Jean-Michel Aulas qui commençait à dire le championnat, peut-être qu'il va falloir qu'il s'arrête, qu'on fasse une année blanche. Après c'est d'autres qui ont pris le dessus, après il y a l'Euro qui a été décalé et les dates ont été déjà réservées. Derrière, la Ligue des Champions, alors au départ c'était une finale, forcément on décale les finales du mois de mai, donc on les décale fin juin. Maintenant c'est jusqu'au 3 août, et puis après, comme tu dis, rétro-pédalage. Au d'un moment il faut arrêter, quoi. Ça fait des polémiques pour rien, en fait, parce que on est tous au jour le jour. On sait pas demain ce qu'on aura droit de faire, on sait pas après ce confinement comment on va réussir à revivre ensemble en communauté, dans les stades, sur le terrain, les joueurs, j'imagine. Donc il y a tellement de choses à mettre en place qu'au d'un moment, comme tu dis, il faut arrêter d'essayer d'avoir un temps d'avance, de réserver une date, parce que tu sais qu'aujourd'hui tu vas pas t'y tenir, et que le football, l'économie, il n'y a pas que le foot, mais l'économie est en danger, et que il faut déjà attendre que ce putain de virus arrive à passer, qu'on arrive à gérer tout ce qu'il y a à gérer aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des clubs qui vont être en grande difficulté, bien sûr que l'UEFA, la FIFA aura énormément de boulot, mais arrêtez d'essayer de nous vendre des trucs qui sont pour l'instant on peut pas en parler, tout simplement. Donc c'est plus qu'énervant. On fait des débats là-dessus, alors ça nous fait vivre aussi les émissions. C'est sûr, heureusement hein, qu'il y a des gens qui arrivent à dire des conneries comme ça. Au moins, on arrive à dialoguer dessus, à discuter. Mais
tu mets le doigt dessus pour moi, manger. Tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant.
Justement, ton avis là-dessus et aussi sur la déclaration de Denis Le Saint, le président de Brest, qui allait du côté un peu de la saison blanche proposée par Jean-Michel Aulas.
Elle est pleine de bon sens et c'est sûrement ce que... je vais pas dire tous parce qu'il y a toujours une brebis galeuse, mais la plupart des gens, même pas que des présidents de club, mais que la plupart des gens pensent, c'est sans doute la position la plus logique actuellement, sauf que Jérôme a mis le doigt sur quelque chose. Et on participe à ça nous aussi d'ailleurs, mais c'est pas valable que pour le football, c'est valable pour tout, pour la situation et les prises de décision et l'analyse qu'ont le gouvernement en ce moment dans cette situation que personne n'a connu jusqu'alors. C'est quelque chose de nouveau. Tout le monde essaye de faire le maximum. Tout le monde essaye de réagir au mieux. Sauf qu'on est dans une ère de communication à outrance, une ère où il faut que tout soit médiatisé et tout est médiatisé. Et à un moment donné, si tu ne fais rien. Tout le monde, et nous les premiers, on reprocherait à ceux qui devraient prendre des décisions ou qui devraient prendre la parole de ne pas le faire. Et j'en suis intimement persuadé. Voilà, j'en suis 100% sûr. Si jamais on n'avait pas encore entendu le président de la FFF, le président de la Ligue, les présidents des clubs, on serait les premiers à reprocher leur silence et leur non-intervention. Alors que finalement, oui, vous avez raison, Jérôme a raison. Tout le monde devrait se taire pour l'instant. Les décisionnaires devraient peut-être effectivement faire ces groupes de travail, essayer de travailler ensemble pour être prêt aux différents scénarios qui arriveraient, mais sauf qu'aujourd'hui tu ne peux pas faire les choses sans communiquer, c'est impossible dans notre société, et c'est valable dans le football, et c'est valable pour d'autres secteurs d'activité qui souffrent en ce moment, où les responsables sont obligés de communiquer, et c'est valable même tout en haut avec un gouvernement qui réagit plutôt qu'il n'agit, parce qu'il ne connaît pas exactement la situation, on ne l'a jamais vécu, et qui s'en prend aussi plein la tête, alors parfois à juste titre sûrement, parfois non, mais qui est obligé de communiquer au fur et à mesure, c'est tous les jours, voilà, on est tous bercés à ça toute la journée.
Non mais Pierrot, tu peux communiquer. Maintenant, là, il y a des. Tu te rends compte quand même qu'il y en a, qui. Donc, Seferine te sort que il faut que les finales soient jouées avant le 3 août, sinon, il sera obligé d'annuler. Et puis, il y aurait trop pédalage derrière. Donc, t'es au d'un moment, mettez-vous d'accord. Moi, je veux bien. Je vais dans ton sens.
Mais tu sais pourquoi, Jérôme? Tout simplement parce que en 10 ans, en se réservant une date, comme tu l'as appelé, et t'as parfaitement raison, ils veulent montrer ces gens-là. Qui sont capables de gérer un virus, de gérer quelque chose que personne, même les plus grands scientifiques, ne sont capables de gérer. Alors, un petit peu d'humilité, moi, je trouve, et parce que tout simplement, on a l'impression aussi, ces gens-là ont l'impression que le football est capable de gérer la planète. Non. Juste un petit virus qu'on voit pas. Revenons à des valeurs beaucoup plus saines. Un petit virus invisible qui crée des choses immondes dans le monde, il est bien plus fort que le football. Et je pense que voilà tout simplement pourquoi on dit on va mettre cette date-là, c'est une date butoir parce qu'ils veulent gérer, mais on gère rien du tout. On les verra à ce moment-là quand ils seront bons dans la réactivité. On va pas juger là leur faculté d'anticipation. Leur réactivité, c'est là qu'on va juger ces dirigeants.
Alors messieurs, enfin, je suis peut-être un peu utopiste. Excuse-moi, Thierry, vas-y.
Je t'en prie, vas-y bien.
Non, j'allais dire, moi je suis peut-être un peu utopiste, mais ce qui me fait un peu doucement rire jaune en ce moment, c'est qu'on demande aux joueurs d'être très solidaires, on demande à tous les gens d'ailleurs, pas que dans le football, d'être très solidaires, de faire les choses comme il le faut. Et pour en revenir à ce qui nous concerne nous ce soir le foot, je me dis que le seul discours finalement logique et cohérent, ce serait effectivement de dire pour l'instant le virus est beaucoup plus fort que nous et beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense, et la fin de la saison n'est pas importante, et que finalement pour soulager tout le monde, des institutions comme les ligues, comme les fédérations ne le cachons pas, un petit peu de trésorerie, des institutions comme l'UEFA et la FIFA qui ont des petites trésoreries riches à milliards, pourraient tout à fait avoir un discours très sain en disant on viendra en aide aux plus en difficulté, gérons la crise pour l'instant, ne parlons pas des reprises de championnat, basta. Mais ce discours-là, il n'existe pas. Non, il faut bien sûr finir les compétitions pour éviter de perdre le moins d'argent.
T'as raison, Pierrot. Ou alors s'ils veulent être rassurants auprès des clubs et tout ça, dire nous terminerons dans les grandes bases, nous terminerons le championnat, nous terminerons la Champions League, nous verrons quand ce virus et quand les différents gouvernements seront aptes à nous donner la main pour qu'on puisse commencer. Et basta, c'est tout. Aussi. Après, c'est très simple et je trouve, enfin moi personnellement, je trouve que ça nous donnerait un petit peu d'humilité par rapport à tous ces événements.
Messieurs, je termine sur ce sujet des différents calendriers parce qu'il y a eu une proposition qui a retenu mon attention. Elle n'est pas dénuée de bon sens, même si bon, moi, je suis pas spécialement pour et pourtant j'adhère à tout ce que vous avez dit auparavant. Iker Casillas, d'ailleurs, comme l'avait fait Christian Gourcuff, a défendu l'idée d'organiser une saison de football selon l'année classique, c'est-à-dire l'année calendaire, avec l'idée donc de terminer cette saison 2019-2020. D'ici le mois de décembre, ce qui paraît faisable, a priori, même si encore une fois, on n'est pas devin et on ne sait pas comment ça va tourner.
Coupe d'Europe y compris.
Et ensuite, non plus de jouer des saisons 2019-2020, 2020-2021, mais une saison 2021, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, c'est-à-dire sur l'année civile. Est-ce que ça vous semble cohérent dans l'esprit du football ou est-ce que les
habitudes... Mais qui l'avait dit déjà ? Qui avait donné cette proposition ?
Christian Gourcuff l'avait déjà proposé.
Évidemment. Ouais, c'est Christian Gourcuff. Ouais, ouais. Et puis il y en a un autre. On parlait de la Coupe du Monde au Qatar et que c'était une façon de comme ça se mettre dans le calendrier d'une Coupe du Monde qui va se dérouler en hiver. On n'est pas habitué où les championnats vont être obligés de s'arrêter si tu pars sur deux années comme c'est aujourd'hui.
Jean-Pierre Rivière l'avait proposé également.
Jean-Pierre Rivière, exactement. Et donc on avait dit pourquoi pas, parce que là ça laisse du temps à vaincre ce virus, à trouver une solution et que les équipes aient le temps de se repréparer au bout d'un moment pour repartir dans des compétitions et puis finir au mois de décembre.
Et ça après, permet de ne pas jouer à huis clos aussi.
Oui, mais le problème de tout ça, oui, ça permet de pas jouer à huis clos parce que c'est un anti-football. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, si on est obligé de le faire, du moins si les joueurs sont obligés de le faire et qu'on est obligé de se taper des matchs à huis clos, on le fera. Je crois qu'il y a rien de plus important que la santé des joueurs. Et
et des gens.
Au bout d'un moment, si t'as cette décision-là, c'est-à-dire qu'il faut tout bouleverser, que l'UEFA soit d'accord, que la FIFA soit d'accord, que tous les championnats soient d'accord, je suis pas sûr moi. On arrive à trouver un accord commun sur un championnat qui va se dérouler du mois de février au mois de décembre, quoi.
Et les agents, attention, de quoi?
Je dis les agents aussi, Pierrot, il va falloir qu'ils soient d'accord par rapport au contrat, ouais, renouvellement de contrat,
pour l'ongation. Bouleverse tellement de choses.
Oui, mais ça, enfin, nous, on s'adaptera, bon, Yo, t'inquiète pas. Mais
oui, c'est sur l'oseille,
sur tous les joueurs.
Lionel, l'oseille n'a pas de prix, hein. Tu sais, ils s'en foutent, les agents.
Non, c'est pas ça. J'allais dire le contraire. Attention de ne pas surenchérir, face au contexte difficile et à l'absence de, enfin, Timothée l'a dit, on ne sait pas comment ça va se passer. Et pour moi, le problème de mettre sur des années civiles, c'est au-delà de ce dont on parle là maintenant. C'est surtout que au milieu de ces années civiles, il y a quand même 2 mois de vacances scolaires à peu près dans tous les pays d'Europe. C'est compliqué dans ces mois-là de ramener du monde au stade dans n'importe quel pays parce que les gens sont en vacances, ils partent à droite, à gauche. Donc le football ne pourrait pas continuer ces mois-là. Là, ça nous arrange sur la prochaine compétition internationale au Qatar d'avoir peut-être une année civile. On se dit tiens, ça te permet de t'adapter à ça, sauf que les années suivantes et les autres championnats d'Europe et Coupe du Monde auront lieu l'été.
Comment
comme
faire toujours pendant des années on a joué la CAN au moment de la trêve, donc
il y a qu'un club qui serait content
Timothée, la CAN au milieu de la trêve comme un championnat d'Europe ou comme une Coupe du Monde, c'était l'idéal pour les clubs. Moi je te dis qu'aujourd'hui où la CAN revient en janvier et février, c'est quasiment pas 2 mois mais presque, parce que ça se jouera avec beaucoup plus d'équipes. Je peux te dire que pour les clubs qui ont beaucoup d'internationaux africains, c'est un vrai casse-tête pour faire ton effectif, parce que t'as parfois un tiers ou 2 tiers de l'effectif qui s'en va faire une compétition internationale au milieu de la saison. Donc ces compétitions là elles ne peuvent avoir lieu que pendant la trêve du foot, donc l'été. Donc c'est compliqué.
Non, mais c'est une fausse bonne idée, ça c'est sûr.
Ouais, voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas tout de suite, je pense, et qui seront compliquées pour s'adapter à ça.
Et puis ça pourrait aussi bouleverser l'attachement du public de voir une saison démarrer à la mi-août et de retourner au stade comme ça en septembre, comme on en a l'habitude. Autre information, messieurs, le CIO a accepté que lors des JO qui se joueront en 2021, les footballeurs éligibles resteraient ceux étant nés le 1er janvier 97. On rappelle que pour les JO, les joueurs doivent avoir moins de 23 ans. Mais étant donné la situation et le report d'un an, exceptionnellement, ceux qui ont moins de 24 ans disputeront donc le tournoi olympique de façon à permettre aux jeunes qui se sont qualifiés pour les JO, de ne pas voir leur rêve brisé à cause du report d'un an. Et d'ailleurs, la FFF avait formulé cette demande auprès du CIO. Tout le monde est d'accord pour dire bravo.
Tant que Kylian, il peut le faire, ça va.
Une information nettement plus douloureuse. On a évidemment une pensée pour tout le stade de Reims. Vous l'avez peut-être vu, son médecin officiel s'est donné la mort après avoir appris qu'il était contaminé par le Covid-19. Bernard Gonzalez avait 60 ans. Évidemment, on a une pensée pour sa famille et pour tout le stade de Reims. Et puis, pour terminer sur une note nettement plus souriante. Souviens-toi, Lionel, hier, on se demandait combien valait la plaque de champion de France mise aux enchères par Reynald Denoëx via l'initiative du handballeur Cyril Dumoulin. Eh bien, l'objet est parti tout à l'heure à 21h.
C'est adjugé, ça y est ?
Ouais, ça y est. 10 329 euros qui seront reversés aux aides-soignants. Forcément, c'est plutôt une chouette nouvelle. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une bonne nouvelle et une belle histoire dans la belle histoire, puisque cet argent va être reversé pour la lutte contre le coronavirus, mais Denoëx va pouvoir garder son trophée. L'enchère a été en réalité remportée par une association de supporters nantais qui ont fait une cagnotte afin de faire ce don et de permettre à Reynald Denoëx de garder sa plaque. Chapeau.
C'est beau, bravo.
C'est top, bravo. Belle histoire.
Ouais, voilà, belle histoire, bravo. Effectivement, ça se multiplie.
Jérôme, tu veux pas mettre ta pompe gauche, toi?
Ouais, voilà, c'est pas une chaussure. C'est pas 10 000, c'est 100 000.
Bah justement.
Tu sais que si tu restes
sur le record, les moulés, pas les vissés.
Non, mais j'ai vu un truc passer. Non, mais en plus, j'ai vu un truc passer où on me demandait en effet de participer à cette vente aux enchères. C'est bien du Moulin, le joueur de hand, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est le handballeur. Ouais, c'est ça, ouais. Le handballeur,
voilà,
Cyril Dumoulin,
c'est ça. Ouais. Bah, j'ai vu un tweet passer, et puis j'avais pas fait gaffe, et il y en a plein qui me disent, tu réponds pas, donc, je vais essayer de prendre contact avec lui, hein, je vais voir ce que je peux
alors
faire.
Alors moi, j'ai répondu, Ah bon, j'ai pas répondu parce qu'ils m'ont pas demandé. Je leur ai proposé mon maillot, ils m'ont dit non, toi c'est pas la peine.
Je savais qu'il allait dire ça. Alors que c'est pas vrai. Bon,
par contre, je suis sûr que le pied droit de Fabien Cole, il se vend bien.
En tout cas, on me souffle, Jérôme, que tu serais prêt à donner ton pied gauche, mais à la science uniquement. Évidemment.
Depuis le temps qu'il est dans le formol, attends.
Si ça peut nous faire avancer les délais là, je peux te dire que je le fais avec grand, plaisir.
Moi, on m'a soufflé manger que si tu mettais ta chemise qui a tourné sur Internet aujourd'hui aux enchères, ça partirait aussi très cher.
Laquelle?
Tu l'as vu? T'as pas vu?
Ouais, j'ai vu.
C'est quoi ça?
J'ai pas vu ça.
Vous avez pas vu? Il y a un tweet qui est passé avec une photo de G. Je sais pas, dans les années.
Dans une écurie.
Ouais, je sais pas, il est sur une botte de paille avec un chapeau de cow-boy, une chemise mais blanche, non, mais avec des pressions, enfin des bouts d'adamus, des roues à
alors partout. Sachez que c'est relayé sur le compte de l'acteur, dans la bouche. Comme ça, ça n'échappera à personne.
C'était pour un sûrement pour une interview ou un truc comme ça, non?
Non, j'avais fait une séance photo à Maison Lafitte, dans les box,
d'accord.
Du moins pas dans les box, mais et on en avait fait
quasiment avec la botte de paille.
Mais on avait fait une photo dans la box et en effet c'est celle-là et j'avais plusieurs chemises, du moins et voilà, il m'avait ramené des vêtements donc que je mettais. J'avoue que celle-là elle est pas c'est pas la plus belle des photos, mais bon c'est comme ça, il y a des dossiers. Hein.
J'ai hâte de voir ça.
Et on en a tous quelques-uns de cette époque-là.
Écoute, c'est comme ça. Bon, il y en a, ils se sont fait plaisir. Hein, Lionel, tu vas juste sur mon compte Twitter et tu vas voir. Il y a de quoi te régaler.
Heureusement que t'avais une belle montre pour rattraper le coup.
toujours. Une dernière actualité, messieurs, c'est eh bien les joueurs de l'équipe de France et une partie du staff qui ont proposé, vous pouvez trouver ça sur YouTube assez facilement, sur la chaîne de l'équipe de France, un message de remerciement et de soutien à l'ensemble du personnel médical. Au total, il y a 18 joueurs qui s'expriment, 4 membres du staff. Le message est sans équivoque. C'est un véritable message de soutien de la part des joueurs de l'équipe de France pour saluer tout le travail du personnel soignant. On en profite pour les remercier à notre tour également. On revient dans un instant dans l'after pour vous parler dans cette deuxième partie de première heure de cet after du fait qu'est-ce qu'un bon coéquipier. On n'est pas en train de vous parler du bourrin qui fait le 11e. On est en train de vous parler du vrai bon coéquipier, du vrai bon joueur collectif, du vrai bon joueur d'équipe. On revient dans un instant dans l'after. À tout de suite.
RMC. L'after foot. Timothée Mémon.
22h22, faites un vœu, décidément on revient systématiquement de pub à 22h22. L'occasion aujourd'hui de faire la part belle aux équipiers. Voilà ce sur quoi voulait se pencher l'after aujourd'hui. Le football, ça se joue à 11, on ne peut pas construire une équipe qu'avec des stars. Il faut aussi ces joueurs que tout le monde aime, sans qu'ils soient forcément les chouchous, ceux qui sont essentiels, sans être la star de l'équipe, ceux qui brillent par leur sens du devoir et du collectif, et non par leurs exploits individuels. En clair, pas de Zidane sans Makelele, pas de Platini sans Tigana. Ce soir, intéressons-nous aux équipiers au sens noble du terme, aux équipiers modèles. Messieurs, est-ce que vous avez comme ça le souvenir? Ça peut être dans le championnat de Ligue 1 actuel, ça peut être un joueur d'une équipe actuelle, ou alors le souvenir d'un garçon qui faisait briller les autres, toujours au rendez-vous, qui se blessait peu, qui était costaud, le sens du devoir, mais qui restait un excellent footballeur pour autant. Lionel, par exemple, pour commencer.
Moi, j'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Lilian Lasland. C'était un mec incroyable qui avait pour moi les quatre qualités fondamentales d'un bon coéquipier. C'était déjà un bon communicant. C'est un mec qui savait aussi être à l'écoute du groupe. Il est très intelligent, il connaissait ses forces, ses faiblesses et celles de ses coéquipiers. Et puis c'était un mec qui t'inspirait, tu vois, dans les attitudes positives et tout ça. Moi, voilà, les quatre attitudes qu'il faut avoir, et lui, il les avait. C'était un mec génial.
Pierre?
Non, j'étais en train de réfléchir à un nom pendant que Yo parlait de Lilian Lasland, mais j'ai pas de nom qui me vienne.
Après, si t'as pas moi, encore, je peux continuer, hein, et puis tu.
Non, mais c'est pas ça. En fait, c'est parce que moi, le coéquipier, un bon coéquipier, oui, j'en ai eu plein, des bons coéquipiers, c'est-à-dire des mecs avec qui tu pouvais rire en dehors, discuter aussi franchement, et qui sur le terrain avaient un bon.
Tu sais pourquoi t'en as pas, Pierrot? Parce que non. Le bon coéquipier, c'était toi.
Non, mais alors voilà. Moi j'allais te dire
si c'est tout. Moi j'aurais dit Pierre Ducrot.
C'est gentil, mon Yo. Je crois que le bon coéquipier, c'est celui qui effectivement représente quelque chose de d'honnête et de respectueux dans le vestiaire. Quelqu'un avec qui tu sais que tu peux parler ouvertement et qui va être honnête avec toi et avec tout le monde. Et puis c'est sur le terrain. Ouais. Je pense que chacun coéquipier idéal par rapport à ce que lui ne sait pas faire. J'entends par là que moi mon coéquipier idéal sur le terrain, c'est pas forcément un mec qui va bûcher avec moi au milieu de terrain à côté de moi. Ça va être plus un mec qui va savoir faire au-dessus de moi quelque chose que moi je ne sais pas faire, donc j'ai pas les qualités pour. Ça aurait pu être par exemple un rail. Voilà, c'est pour ça que au départ je disais pas de nom, mais j'allais y arriver. Des bons coéquipiers, j'en ai eu plein avec qui je me suis éclaté. Le coéquipier idéal pour moi, mais ça ne sera pas pour les autres peut-être, ça serait un rail par exemple, parce que c'est quelqu'un d'honnête, de respectueux et qui en plus sur le terrain m'apportait quelque chose que moi j'étais incapable de faire.
Parce que c'est difficile, Timothée, de trouver un bon coéquipier. Alors, justement, c'est ce qui fait la force d'une équipe. C'est qu'à chaque fois, t'en as un, c'est un plus un.
Il y en a beaucoup, mais on pensait, par exemple, en préparant cette émission avec Jérôme Thomas, on pensait à ce qu'avait fait Paredes pour Neymar, par exemple. Voilà, capable de
ça fait partie.
Voilà, prendre la défense, monter au créneau pour son coéquipier. Moi, par exemple, vous le savez, mon club de cœur, c'est la AS Saint-Etienne. Je réfléchissais sur ces dernières années. C'est Fabien Lemoine qui m'est venu à l'esprit. Jamais mauvais. toujours à son niveau, un joueur très apprécié par le public, mais c'était pas
Jérôme, il avait envie de dire mais jamais bon, mais il l'a pas dit.
C'était jamais le chouchou à son époque, c'était Aubameyang, plus brillant.
C'est dur
plus
des brillant. Années stéphanoises, non? Elles sont dures, non?
Non, mais
non, parce qu'il faut retenir Fabien Lemoine comme supporter de Saint-Étienne.
Moi je te mets supporter idéal, moi.
Franchement, c'est...
Non, mais encore une fois, on avait pensé, par exemple, à Thomas Monconduit. Il faut mettre ça dans le registre du club dans lequel il évolue.
Tu peux pas t'arrêter à ce que tu vois sur le terrain, en fait, quand tu parles de coéquipier. Coéquipier, c'est ce que tu vois sur le terrain. Toi, tu parles plus de complémentarité, en fait, là. Entre deux joueurs.
Parce que là, Timothée et Jérôme, qui a eu, vous avez eu l'idée de faire ça, c'est vaste, c'est très large. Parce que
justement, on est qu'au début de ce débat. Expliquez-nous, parce que nous, effectivement, on a la vision extérieure, on a la vision de complémentarité. Et tu as totalement raison en utilisant ce terme, Pierre. C'est cette complémentarité sur le terrain. Qu'est-ce que c'est qu'un bon coéquipier, justement?
Ça, c'est
en
la
dehors.
Partie visible. Voilà. Ça, c'est la mais partie dehors, visible de
en dehors du terrain. Mais déjà des bons coéquipiers, ça dépend de la personnalité. Là on a à trois personnalités différentes, t'as Pierrot, Lionel et moi. Donc on n'a pas la même attente des coéquipiers. Peut-être que pour Pierrot et Lionel, et ils ont donné des noms, c'est en effet leur coéquipier idéal. Moi j'en ai certainement
on aurait pu en donner d'autres, hein.
Non ouais. Non mais bien sûr, oui, et moi dans un vestiaire, franchement, j'en avais beaucoup et des personnalités complètement différentes, parce que il faut des mecs, c'est un tout, et c'est comme ça que c'est difficile pour un directeur sportif ou un président ou un entraîneur de créer un groupe, parce que il faut réussir à créer de la complicité, de la complémentarité sur le terrain, de la complicité en dehors. Tu sais très bien que sur un groupe de 25 joueurs à peu près, un effectif professionnel, les 25 ne peuvent pas s'entendre, qu'il y avait avoir entre guillemets des clans, hein. C'est pas méchant quand je dis ça, hein. C'est pas dramatique d'avoir des clans, mais t'as toujours dans un effectif de 25 5-6 joueurs qui vont bien s'entendre d'un côté, qui vont créer quelque chose, d'autres qui vont se rassembler là. Les mises au vert, c'est exactement ça. Moi je les ai vécues, ces mises au vert là, et on a passé beaucoup de temps à l'hôtel. Je prends l'exemple de Monaco où peut-être ça a été ma meilleure aventure humaine avec un groupe, et c'est peut-être pour ça qu'on a réussi à atteindre le sommet de l'Europe, mais au bout d'un moment c'est créé de plein de personnalités, et après t'as des affinités plus avec les uns qu'avec les autres, mais il faut tout, des joueurs qui vont s'effacer, des joueurs qui vont être là, qui vont aller dans le sens toujours du collectif, qui vont mettre leurs intérêts individuels de côté, d'autres qui ont un statut différent. T'as toujours des joueurs stars, du moins des joueurs qui vont faire plus de différence, qui vont faire gagner l'équipe. C'est souvent on cite les joueurs offensifs, ceux qui vont créer du jeu, qui sont doués pour ça. Mais après c'est pas oublié, par exemple là t'as Lionel, t'as un gardien de but, faut pas oublier les défenseurs, faut pas oublier les milieux défensifs. Moi je prends l'exemple de Monaco, j'en avais plein des coéquipiers idéaux. J'avais des mecs qui me défendaient sur le terrain, Akiziko et Bernardi, tu pouvais aller à la guerre avec eux parce que tu savais que c'était eux en première ligne et ils allaient te défendre à tous les moments. C'est un peu ce que Neymar vit avec Paredes. T'as donné l'exemple, Timothée. C'est exactement ça. Moi, je prenais un coup, bam, t'avais les deux roquets qui arrivaient derrière. Je peux te dire que les mecs, ils bougeaient plus derrière. Du moins, ils bougeaient plus. Après, ils pouvaient avoir des insultes ou quoi que ce soit. Et là, tu te sentais fort. Et puis après, dans le vestiaire, c'est fait de plein de personnalités. Il faut du répondant. Il faut des mecs. Pour moi. C'est vraiment mon avis personnel. Un bon coéquipier, c'était le mec déjà qui arrivait le matin avec la banane, avec l'envie. Tu savais que c'était sa passion. Ben ouais, c'était sa passion, et tu savais qu'il avait, il était. Mais même, on vit tous des moments, par moments compliqués dans notre vie privée. Il mettait ça, il laissait ça dans la voiture, et il arrivait dans le vestiaire, et puis il oubliait tout, et il allait dans le sens du collectif. Et ça, moi, j'adorais ça. J'adorais parce que je faisais partie de ces mecs-là. Par moments, ça me cassait les couilles de. Excusez-moi pour la vulgarité,
parce que t'étais inspiré.
Mais de venir m'entraîner
par un mec comme ça.
Mais exactement, et ça te donne envie d'avoir la banane, de te lever le matin, de mettre tes chaussures. Putain, il y a pire, et plus d'une fois, et surtout sur la fin de carrière où je ressentais un petit peu, j'y allais par culons à l'entraînement, mais sur la fin, c'est compliqué, on l'a tous vécu. J'essayais de me dire, mais attends, mais oublie pas tes premières années, c'est magnifique ce que tu peux faire, et essaye de donner aux jeunes, à cette nouvelle génération qui manque peut-être de dynamisme, de joie, d'arriver avec la banane, et tu dois être un exemple là-dessus, et moi j'ai eu plein de coéquipiers comme ça, et heureusement, et pour moi c'était ceux-là les coéquipiers idéaux.
Alors justement, Jérôme, tu en as cité quelques-uns. Lionel, dans France 98, tu as comme ça un exemple, 1, 2, 3, 4 joueurs peut-être qui avaient ce leadership.
Tu veux que je te
moral.
Dise la vérité, j'ai essayé d'en retirer un. J'ai été alors durant France 98, durant le mondial, tout ce qui a précédé jusqu'au mondial, honnêtement, je trouve que chacun des 22 mecs était le coéquipier idéal. C'est-à-dire que c'est vrai, Jérôme, ce qu'il disait, c'était quand t'as un mec, quand il était pas bien, Jérôme, il avait un mec qui venait, ce qu'il voit sur le terrain, qui venait derrière pour couper. Lui, c'était déchiré, il avait raté une passe. C'était le coéquipier qui venait pour récupérer le ballon et tout. Et ben à ce moment-là aussi, à France 98, quand ça arrivait, et Jérôme l'a fait aussi, et tu deviens un coéquipier idéal quand tu dis, soit tu dis, soit tu ne dis rien, ou tu fais voir, ne serait-ce qu'un merci de t'être découpé pour moi, de t'être mis Mina pour rattraper ma connerie. Tu deviens le coéquipier idéal à ce moment-là, et donc ça fait partie. Moi, je te dirais franchement, je peux pas de France 98 en retirer un. Il y avait 22, et j'irais même au-delà avec tout le staff. C'était vraiment c'était. Tout le monde était le coéquipier idéal de chacun. C'est pour ça que tu deviens champion du monde. Et c'est pour ça aussi, par exemple, tu vois, je t'ai entendu, Jérôme, quand tu disais, t'as parlé un petit peu. Alors, il me semble avoir retenu ça. C'était peut-être sorti du contexte. Par exemple, pour Benzema, que t'en avais marre d'entendre que les joueurs ont le droit de s'exprimer sur ce qu'ils disent et tout ça. Mais
ouais.
Et il a parfaitement le droit. Il dit ce qu'il veut, le mec. Mais par contre, dans une équipe, à un moment donné, où tu vas faire une Coupe du Monde, où tu vas faire un championnat d'Europe, où
tu vas peux être pas dire ce que tu veux. Ça, c'est sûr.
Là, tu peux pas. Ah, oui. Et du fait que tu le dises à un moment donné, le mec, il se met en retrait par rapport à une sélection. Et ça, c'est le problème, parce que Giroud, il a entendu Benzema le traiter de karting. Il a peut-être raison, il a peut-être tort. Mais le problème, c'est que.
Il l'a dit. Voilà, il l'a dit. Lionel, je te coupe, mais il l'a dit parce que Karim sait qu'il reviendra jamais en équipe de France.
Exactement, dans un contexte.
Aujourd'hui, voilà. C'est nos limites. S'ils étaient ensemble, bien sûr, et on en a, Pierrot était là, ce jour-là, sur ce
débat-là. Ouais, j'ai pas tout entendu, c'est pour ça que je mets des.
Et Pierrot, c'est vrai, disait, et je peux pas le contredire, disait, il y a des choses qu'on peut pas dire, il y a des formes à mettre. Bien sûr que, quand t'es dans un groupe, il y a des formes. Si Karim était aujourd'hui en équipe de France, je suis persuadé, même si ça va pas créer une complicité entre les deux. Et encore, il y en aurait une, parce que quand t'es champion du monde, si, t'es bien mieux
que
moi pour parler.
Parce que tu deviens intelligent, parce que tu mets de l'eau dans ton vin.
Oui, voilà. Mais aujourd'hui, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils sont à des années-lumière. Du moins, il y en a un qui est à Madrid, l'autre qui est en Angleterre. Ouais. Ils se croisent pas. Aujourd'hui, voilà, Karim, il sait que l'équipe de France c'est mort dans tous les cas, parce que Didier a re-signé. Aujourd'hui, il se lâche et il a ses mots assez difficiles. Mais je suis persuadé que s'il était aujourd'hui sélectionnable, mais bien sûr qu'il me parlerait pas comme ça de son coéquipier en équipe de France.
Voilà, mais c'est ça fait partie des moi je trouve de la communication. Quand je disais, il faut être un bon communicant,
bien sûr,
un mec capable de rassembler tous les membres de son équipe pour un bénéfice, pour un objectif commun. Ça c'est hyper important. Après t'as le mec aussi qui est à l'écoute. Quand je te donnais dans les Timothée dans les quatre, le mec qui sait se mettre au service des autres, qui sait faire des compromis personnels au profit du groupe, ça c'est, il y a des fois tu vois, par exemple en France 98, on était pratiquement tous des leaders dans notre équipe. On est des leaders, mais par contre t'arrives là, alors pour parler moi par exemple de, parce que c'était très compliqué, c'est ma nature d'être leader dans mon club. Mais j'arrive en équipe de France. Il y a déjà des leaders. Il faut pas que tu sois plus leader que les leaders qui sont en équipe de France.
Eh oui.
Donc il faut savoir retomber.
C'est aussi ça, c'est passé un peu, ouais.
Mais voilà, à un moment donné, il faut savoir être à l'écoute du groupe, connaître tes forces, tes faiblesses aussi, de tous les éléments que t'as autour de toi. C'est très compliqué d'être un bon coéquipier. En fin de compte, tu sais, enfin moi je l'ai synthétisé, je vais m'arrêter là. Un bon coéquipier, c'est tout simplement quelqu'un qui te rend plus fort. Point barre.
Ouais. Ouais. Alors on continue. Oui, c'est voilà. C'est
une, mais bon, moi je remercie tous mes coéquipiers idéaux que j'ai eu, qui me faisaient les lacets. Ceux-là, je les adorais. Hein, ceux qui me faisaient les lacets, qui me ramenaient de l'eau quand j'avais soif sur le terrain. Franchement, c'était top. À qui tu faisais les lacets, toi, à la Coupe du Monde, Lionel, en 98?
Même pas. Je me faisais les miens. J'avais pas besoin.
À Bruno Martini.
On continue d'essayer de définir quel est l'équipier parfait. C'est le joueur qui vous rend meilleur. C'est déjà une bonne part de cette définition, ouais. Peut-être. Alors, messieurs, on arrive dans une période où le football est de plus en plus individualiste et individualisé, starisé. Les joueurs pensent à leurs statistiques parfois plus qu'au collectif. On a vu, par exemple, dernièrement, un joueur comme Djikou se plaindre parce qu'il ne jouait pas à son poste de prédilection. Est-ce qu'être un
coéquipier... Ça a toujours existé, ça, Timothée. Oui. Il faut pas non plus faire.
Ça a toujours existé, effectivement.
Sauf qu'on le sait beaucoup plus facilement aujourd'hui, mais ça a toujours existé.
Oui, oui.
Mais alors,
oui,
est-ce que le coéquipier et l'équipier idéal, c'est aussi celui capable de jouer n'importe où? J'ai bien compris que mon exemple de Lemoine avec Saint-Etienne, c'était pas terrible. J'ai donc choisi mon deuxième club de cœur, Liverpool. Un Milner qui accepte de jouer n'importe où, le vrai couteau suisse.
Et parce qu'il est capable de le faire aussi, Tim. C'est pour ça.
Ouais. Oui.
C'est parce que le mec est capable de le faire.
Parce qu'il est bon à des choses que tu peux pas accepter. Il a jamais joué dans les buts, hein.
Et puis moi, désolé, tu m'aurais mis en numéro 10 ou en numéro 9. Valait mieux que je gueule avec l'entraîneur et qu'il me remette 6 pour tous mes coéquipiers, quoi. À un moment donné,
ce que je veux dire, c'est que Milner, il a un poste de formation, il a une préférence.
Il peut jouer devant, il peut jouer sur un côté, il peut jouer dans l'axe au milieu,
il peut jouer derrière, arrière droit, arrière gauche.
Il sait tout faire.
Ah ouais. Et puis Milner, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, ça a jamais été un meilleur joueur du monde. Un des meilleurs joueurs du monde, on est d'accord, Timothée?
Non, justement, c'est pas forcément le débat. On cherche pas forcément le meilleur du monde. On cherche le bon équipier, le mec essentiel.
Alors, je vais t'expliquer. Milner est très bon à différentes positions, même si je pense qu'il est meilleur au milieu de terrain. Mais bon, il a rendu service arrière gauche, arrière droit, attaquant droit, milieu de terrain gauche, milieu de terrain.
Ce que tu veux dire, manger, c'est si t'as que des mineurs, tu gagnes rien.
Exactement. Et le meilleur joueur de ton équipe, ou ceux qui font partie des meilleurs de ton équipe, il y a aucune raison pour l'entraîneur de le faire changer de position comme ça. Moi je vais prendre mon exemple encore une fois. Moi je jouais offensif côté gauche, voire des fois milieu axial.
Voire défenseur. J'étais
un jour on avait des problèmes. On avait problème arrière gauche. Il y a trois arrière gauche qui se blessent. Il y en avait un qui était suspendu, les deux autres qui se blessent. L'entraîneur il vient me voir et j'avais un statut à Paris. Je faisais partie des joueurs phares du PSG. J'étais en équipe de France. L'entraîneur vient me voir, me dit: écoute, je suis dans la merde, je vais te mettre arrière gauche. Et pourtant j'avais une forte personnalité et j'ai pas refusé pour autant. Je vois aucun joueur de la planète aujourd'hui dire à son entraîneur: ben non, moi je veux pas jouer là. Parce que si l'entraîneur pense que tu peux être bon sur un match, voire sur deux matchs à cette position-là, il y a aucune raison de lui dire non. Au contraire, pour lui, il le fait pas pour te mettre en difficulté, il le fait pour essayer d'apporter le maximum à son équipe.
T'imagines, pour une raison X ou Y, Tourelle dira à Neymar: tu vas jouer arrière gauche. Tu crois qu'il dira oui?
Mais Neymar, non.
C'est l'exemple. Pas Neymar. J'aime pas prendre des exemples aussi tranchés, mais là, en l'occurrence, il n'y a aucun joueur au monde qui dira non.
Mais non, parce que Neymar,
dans quel contexte surtout.
Mais Neymar, déjà, il y a aucun intérêt pour Thomas Tuchel de le mettre arrière gauche ou arrière droit. Après, Neymar, il a changé de position. Je dis pas que Thomas Tuchel décide de tout, mais heureusement que, et j'espère que dans le vestiaire, quand il met son équipe en place, il pense lui avant de penser, avant de se mettre dans la tête de Neymar, que à cette position-là, Neymar va apporter le maximum. Tu l'as vu, bien vu, Neymar jouer en position de numéro 10 libre derrière l'attaquant quand il était moins bien enjambe. Quand il le met côté gauche, c'est parce qu'il estime que Neymar va être meilleur côté gauche. Et c'est pareil pour deux joueurs. Mbappé en équipe de France. Combien de fois on a dit à Deschamps, Mbappé, ouais, il faut le faire jouer dans l'axe, faut faire jouer dans l'axe, faut faire jouer dans l'axe. Et il le faisait jouer milieu droit, du moins attaquant droit. Et ils ont été champions du monde comme ça. Eh ben, écoute, mets-le à la place de Giroud, mets-le à la place de Giroud. Même Kylian, je pense qu'il aurait préféré, au bout d'un moment, être numéro 9 et aller marquer plus de buts qu'il l'a fait. Mais quand c'est pour l'équipe, quand il lui dit, et moi j'étais à côté de lui sur un match avec le Paris Saint-Germain, à côté de Didier, et combien de fois il jouait côté droit quand il arrivait au Paris Saint-Germain au départ, il n'était pas attaquant dans l'axe, il jouait côté droit, il se replaçait pas. Eh ben, plusieurs fois, Didier me faisait la réflexion, me disait, tu vois, c'est bien, Kylian, il attaque à 200 à l'heure. Par contre, ça serait bien qu'il attaque à 150 à l'heure et qu'il défende à 50 plutôt que défende à 10. Parce que là, il se replie pas du tout et c'est pas possible. Et il a réussi à lui mettre ça dans la tête. Donc, oui, c'est à l'arrivée, ça devient un coéquipier idéal quand tu vois la Coupe du Monde de Kylian Mbappé. Alors, et pourtant, Pierre, il a une grosse personnalité, une forte personnalité.
Pierre, tu disais avec justesse que si tu mettais 11 Milner sur le terrain, tu gagnais rien. J'ai la faiblesse de penser que si tu mets 11 Salah sur le terrain, pour garder l'exemple de Liverpool, tu gagnes rien non plus. Est-ce que des Milner, des Anderson, des Fabinho, pour garder l'exemple liverpoolien, sont indispensables pour aller chercher une grande compétition, c'est-à-dire des joueurs capables de répéter les efforts et capables de mettre leur orgueil dans leur poche pour faire briller les autres?
Tout est une, mais tu mets même pas ton orgueil dans ta poche parce que ces joueurs-là adorent être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des joueurs qui courent beaucoup plus que certains autres sur le terrain, qui ont des tâches plus défensives, parfois un peu plus ingrates, mais et pour avoir été non pas au niveau de ces joueurs-là, mais dans ce rôle-là toute ma carrière, quand tu as ce rôle-là, tu te poses pas la question si tu aimerais en avoir un autre. C'est ce que tu sais faire et c'est comme ça que tu arrives à être footballeur professionnel et à gravir les échelons jusqu'à ce que tu n'y arrives plus. Donc ces joueurs-là se posent pas la question et oui, la réponse est oui, bien sûr. C'est une question d'équilibre et toutes les grandes équipes qui vont au bout en Ligue des Champions, dans les grandes compétitions, dans les grands championnats, c'est parce qu'il y a un équilibre parfait entre ces joueurs qu'on appelle un peu plus travailleurs, un rôle ingrat. On peut trouver plein de synonymes, on voit desquels on parle, et puis ceux qu'on définit par joueurs talentueux, artistes, etc. Sauf qu'on s'aperçoit aussi qu'en général, c'est les équipes qui vont au bout. Même les artistes, même les joueurs talentueux dans ces équipes-là sont des joueurs qui ne trichent pas et qui font des efforts. Alors tu vas me trouver certainement une exception par-ci, une exception par-là. Ça arrive. Ouais, voilà, il y a toujours un contre-exemple. Mais de manière générale, et je pense que toutes les équipes qui vont au bout, c'est parce qu'il y a un équilibre entre les différents talents. Allez, parce qu'on peut appeler ça un talent après tout aussi d'aller abattre des kilomètres, d'aller récupérer des ballons, de bien les relancer, etc., pour faire jouer ceux qui ont un autre talent, c'est-à-dire dribbler, marquer des buts, etc. Il faut cet équilibre-là.
Ça fait même pas partie. Ça fait même pas partie des coéquipiers idéaux, ça, Pierrot.
Exactement.
C'est ce que je voulais dire. C'est la base.
C'est une des dérives. Pierrot. Oui. Je trouve une des dérives. Les statistiques. Mais je suis d'accord avec toi, Pierrot. Hein. Mais Timothée, tu parlais des dérives, des stats personnelles et tout ça. Justement, là, on y est. C'est parce que tu peux avoir des joueurs qui sont dans les stats personnel et ça c'est ce qui m'embête. On oublie, tu peux être bon, comme disait Pierrot, d'être d'un niveau extraordinaire, ne pas changer ta nature et tout ça, et d'être un coéquipier idéal, mais ça devrait rentrer pour moi en ligne de compte dans le salaire, parce que t'as des mecs aujourd'hui qui touchent des salaires extraordinaire, des trucs mirobolants et qui ne sont pas des coéquipiers idéaux et qui peuvent te mettre le why. Et là, on passe outre cet élément-là et ça, moi, je ne supporte pas ça.
Messieurs, on va marquer une petite pause.
Pas mis Neymar dans ses chapeaux.
On revient dans un instant avec Bruno qui nous a appelé au 32-16. Vous n'hésitez pas à nous appeler pour nous proposer votre coéquipier, votre équipier idéal au 32-16.
Et toi, c'est le moine, mon Dieu.
Après je me suis rattrapé, j'ai dit Milner, c'est quand même pas mal. On revient dans un instant. Boudaren, c'était plutôt au snooker.
C'est clair.
On revient dans un instant.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Timothée Mémon.
On est de retour dans l'after et on continue à se poser la question de savoir précisément ce qu'est un bon coéquipier et d'avoir des exemples qui puissent nous aider quant à la définition. C'est vrai, flou, difficile à définir de l'équipier modèle dans le football et dans ce football moderne aussi, parce que probablement que la définition a évolué au fil des années. On est avec Bruno qui nous a appelé au 32-16. Salut Bruno.
Oui, bonsoir messieurs. Je félicite d'abord Lionel Charbonnet pour ses sélections et Jérôme Rotten pour son parcours de footballeur.
C'est gentil.
Et donc
merci.
Moi, j'ai un carton effectivement.
Moi t'as pas vu ma carrière, Bruno, non. Non, je suis un consultant aussi. Hein,
t'es assez jambreur, hein, Jérôme.
Non, là, c'est Pierre. Il ne savait même pas que j'étais là.
Un carton qui joue au Paris Saint-Germain.
Moi, je vous laisse.
Et qui a fait plusieurs clubs, qui a fait 20 ans de football, c'est Daniel Bravo.
Ouais. Ah oui, Daniel Bravo.
Je peux vous dire que Daniel a été un coéquipier, surtout au Paris Saint-Germain, exemplaire. Malheureusement, Arthur Georges l'avait mis sur la touche et il était sifflé par le public parisien, mais il fallait voir comment. Et Daniel me disait, écoute, quand je rentre sur la pelouse, j'ai la plante des pieds qui me brûle. Et Daniel n'a jamais rien dit quand il a été remplaçant. Et puis Arthur Georges a quitté le Paris Saint-Germain. Daniel a été surtout un attaquant quand il jouait surtout à Nice, à Monaco. Ouais. Et Louis est arrivé et il l'a replacé comme milieu terrain relayeur. Et là, Daniel a explosé de bonheur à ce poste-là. D'abord, il m'en a souvent parlé et il en parle dans ses vidéos. Et donc, c'était quelqu'un qui a relancé les gens au milieu de terrain, qui redonnait proprement son ballon et qui était aimé dans le vestiaire. Partout où Daniel est passé, c'est quelqu'un qui a été aimé dans le vestiaire. Voilà, dans le vestiaire, et après, eh ben, il est sorti. Quand il est parti à Parme, il est sorti avec le brassard de capitaine. Il avait renversé la situation. Il est sorti avec le brassard de capitaine et sous les applaudissements après avoir été sifflé quelques années avant.
Pierre, voilà. tu as fait quelques matchs avec Daniel Bravo.
Comment ?
Ah oui, bien sûr. Bien
Pierre Ducrot, tu as fait quelques matchs avec...
Expliquez à Bruno qu'il y a un troisième qui est là avec Yo.
Ouais, effectivement, Bruno, il y a Pierre Ducrot qui est avec nous également. Il est un petit peu froissé que dans ton introduction, tu n'aies pas salué sa carrière.
Excuse-moi, Pierre. Excuse-moi, Pierre, de ne pas avoir salué ta carrière.
Non, on plaisantait, c'est pas grave du tout.
J'ai été prêté à Laval et je connaissais... son portable, c'est Denis Croche.
Ouais. D'accord. Non, mais là, effectivement, si ton souvenir, c'est mon année de prêt à Laval, effectivement, je comprends pourquoi tu reviens sur les sélections de Yo et le parcours de G. C'est normal, tout s'explique, quoi. Tout s'explique. Non, ouais, effectivement, j'ai côtoyé Daniel, moi aussi, dans le vestiaire et sur le terrain au PSG pendant 2 ans. Et ouais, je peux que suivre. C'était c'est toujours d'ailleurs un garçon.
T'as connu son changement de poste, toi, Pierrot?
Ouais, bien sûr. Moi, quand j'arrive avec les pros là-haut, il est, alors j'ai pas connu le changement, il était déjà numéro 6-8.
Ah, il était déjà numéro 6.
Ouais, puisque moi, celui qui me fait sortir en 95, c'est justement Luis Fernandez, qui me fait sortir du centre de formation pour faire mes premiers matchs, et c'est Luis qui effectivement resitue Daniel, Bruno a raison, au milieu. Et Daniel, oui, c'était un garçon qui s'entraînait toujours à fond, c'était un garçon qui jouait toujours à fond en match, qui resituait au milieu de terrain, a effectivement connu presque une seconde carrière, et qui en plus dans le vestiaire faisait partie des anciens qui, comme Alain Roche, comme Paul Le Guen, comme Antoine, comme Boiré, voilà. Puis j'en oublie certainement beaucoup, parce qu'à cette époque-là, il y avait tout Lolo Fournier qui s'occupait de nous les jeunes, et qui avait vraiment un comportement exemplaire en face de nous. Donc oui, c'était des coéquipiers et des modèles idéaux. Ouais.
J'avoue que sur Daniel Bravo, je connais plus le consultant que le footballeur, et c'est aussi quelqu'un de jovial, de toujours cordial, de toujours poli.
Super mec.
Ouais.
Non mais c'est un bon mec.
Super
c'est un
mec.
J'ai une anecdote par rapport à Daniel. Il y avait un joueur, il jouait à Lyon à cette époque-là, et en milieu de terrain, bien évidemment. Et il était, on joue contre, c'était Lyon Auxerre. Et il y avait un de nos joueurs, un mec qui venait d'arriver, je vais pas citer son nom, qui venait d'arriver, qui jouait en milieu de terrain, et qui avait une vie qui n'était pas adéquate avec celle que nous on instaurait, tu vois,
qui sortait un peu les veilles de match,
qui sortait un peu dans les veilles de match et tout ben ça. Ouais. Et donc nous, bon, en bon coéquipier, on disait rien, on fermait notre bouche et tout ça. Et tout d'un coup, tu vois, comme le mec qui sortait et tout, un peu énervé, le mec met un coup à Daniel. Daniel, ça lui plaît pas et il se relève. J'ai dit oula, ça va pas se passer comme ça. Je regardais le truc, il lui remet un deuxième coup. C'était un petit jeune, hein. Et là, à un moment donné, il y avait pas les images, bien évidemment, comme il y a maintenant. Le football n'était pas disséqué comme maintenant. Et Daniel regarde à gauche et moi je vois le truc parce que je savais que Daniel allait péter un câble et on était 3-4 joueurs comme ça qui en train de regarder l'histoire et il regarde l'arbitre de touche, il regarde l'arbitre de champ, personne le regarde, il lui met une mornifle à notre joueur et je peux te dire il y en a pas un de chez nous qui a moufté. On a dit merci, c'est ce qu'on pouvait pas lui mettre.
L'équipier modèle sait asseoir son autorité peut-être aussi. C'est aussi
Daniel savait tout faire parce qu'il avait alors le talent effectivement Bruno l'a rappelé tout à l'heure mais il avait une technique au-dessus de la moyenne il avait un peu moins de vitesse quand moi je l'ai connu à la fin de sa carrière qu'au début mais il avait du foncier mais il avait un volume de jeu impressionnant il pouvait courir plus que tout le monde Daniel au milieu il savait mettre le pinceau quand il fallait parce qu'il était pas épais mais il était sec et il savait mettre des coups et faire mal c'était un joueur super complet hein.
Et en plus de ça, il savait quand l'ouvrir, quand la fermer. C'était tout le temps. C'est vraiment un don, ça, savoir quand est-ce que tu peux t'imposer, quand est-ce que tu vas être vraiment. Tu dois être intransigeant avec tel ou tel joueur et laisser filer avec d'autres. C'est vraiment une grosse forme d'intelligence. Et Daniel a ça.
On va remercier Bruno qui nous a quitté. On remercie pour effectivement ce bon exemple de Daniel Bravo. On va accueillir Grégory qui nous a appelé au 32-16. Grégory qui est un homme de goût puisqu'il supporte l'AS Saint-Etienne. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Timothée.
Bonsoir. Salut Greg.
Alors,
nous sommes pas le moine hein, parce que alors franchement,
ton équipier modèle.
Ah bah Timothée, je suis déçu que tu l'aies pas dit. C'est Jesse Moulin. Franchement, le mec, ça fait 15 ans qu'il est au club. Ça a toujours été la dixième roue du carrosse, mais dès qu'on appelle à lui, il est présent.
Alors c'est vrai que c'est le coéquipier modèle dans le comportement, mais dans notre idée de l'équipier modèle, on avait aussi on cherchait aussi des joueurs qui jouent, des joueurs qui apportent leur pierre à l'édifice dans une équipe.
Bah, il joue maintenant.
C'est vrai que Jesse Moulin joue à présent, que ses statistiques sont tout à fait remarquables depuis qu'il est dans la cage, alors qu'il n'avait pas nécessairement immense confiance du grand public. Je me tourne forcément vers Lionel. Il est un peu dans un rôle que tu
mais
as.
Mais c'est justement là la difficulté.
Oui. C'est justement c'est quand tu joues ouais. pas, je pense qu'on voit les vrais comportements quoi.
Exactement, c'est là que tu vois le mec parce que c'est difficile parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il joue, il est bon. Ça se passe très bien. Après, on lui dit, tu retournes sur le banc. Il ferme sa gueule. Le mec, j'en ai que du bon aussi dans le vestiaire avec les deux trois copains que j'ai qui
ouais,
m'en
mais Lionel,
parlent.
Excuse-moi de te couper, mais quand t'es gardien, déjà c'est un rôle à part. C'est pas toi, c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Mais encore plus quand t'es à la doublure au début de saison, elle est logique. Donc en fait, il se met déjà dans la peau de ne pas faire un match, quasiment pas. Donc t'es obligé d'être un coéquipier modèle.
Mais tout le monde l'accepte pas. Non, au bout d'un moment, tu sais, moi j'en pouvais plus personnellement. Je pouvais plus être doublure. J'en avais marre d'être doublure de Bruno, surtout quand j'ai commencé
oui,
à jouer,
t'avais...
qu'on a gagné.
Oui,
et puis, et tu, on
parce
te redit,
que t'avais le ta...
Ouais, mais bah, lui aussi, il a du talent. Hein. Chacun, c'est là où
c'est... C'est là, Jesse Moulin.
Et puis, c'est toutes les années pareil pour lui. Hein. Là, s'il réussit par cette année, ils vont recruter encore un nouveau gardien, et puis Moulin, il va retourner sur son banc, et il aura des grands sourires à chaque fois encore.
Je pense qu'il est conscient de ses qualités. Les gars, 34 ans, vous êtes en train de me parler d'un gardien qui est Lionel. Tu vas pas te comparer à Jesse Moulin, même si je l'adore, ce qu'il fait dans les buts et certainement non, que c'est un mec adorable. Mais s'il avait eu énormément de talent ou un peu plus d'ambition, peut-être qu'il serait parti et il aurait essayé de faire. Même si le poste de gardien est toujours un poste très compliqué, mais quand t'as du quand t'as du talent, Lionel, je suis désolé. Au bout d'un moment, tu t'imposes dans un club.
C'est vrai, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Ça fait quand même 15 ans.
Mais ceci dit, peut-être qu'il a jamais voulu partir, je sais pas, je connais pas sa carrière. Moi, je pense que c'est un gardien qui aurait pu jouer en tant que numéro 1 titulaire dans moins en Ligue 2, ouais, si ce n'est en première division.
Je me suis longtemps attendu à ce qu'il ait un peu une carrière à la Vercoutre, c'est-à-dire rester second et puis aller trouver peut-être du temps de jeu dans un club moins important que ne l'est.
Alors après, t'en as Timothée, dès que tu leur donnes le poste de titulaire, ils sont pas capables, hein.
C'est vrai aussi.
Et comme dit Jérôme, t'es bien dans ce rôle-là et le jour où tu dois confirmer en tant que titulaire, t'arrives plus à t'affirmer.
Je pense, messieurs, que sur un long terme, Moulin serait pas capable d'être un numéro 1. Enfin, pas dans un club comme l'AS Saint-Etienne, quoi.
Ouais, effectivement.
Peut-être dans un club
moindre. Merci beaucoup, Grégory, de nous avoir appelé.
Timothée, tous les Stéphanois sont très fiers de toi, en tout cas.
Bah, c'est très gentil, ça me touche énormément.
Nous, un peu moins, mais bon, tant mieux pour vous.
Beaucoup trop. Puis t'as remarqué, ça va plutôt mieux. On est sur 5 semaines sans défaite, là, à l'AS Saint-Etienne.
Ouais,
ça se passe plutôt pas mal.
La déclaration d'Envila encore aujourd'hui, Timothée, ça fait peur. Hein.
T'inquiète, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Grégory, pour tes mots et merci de nous avoir
appelé
32-16. On revient.
Salut, Greg.
Dans cette seconde heure, on va vous parler avec les drôles de dames d'une histoire bien particulière en Espagne. Et puis on ira faire un tour dans nos grands championnats, voir qui sont les petites pépites françaises, celles qui pointent le bout de leur nez, dont vous avez peut-être pas forcément entendu le nom et le prénom jusqu'à présent. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot.